Troisième partie. Entre les planètes. Chapitre 15. Explorateur 1. L'astronef n'avait quitté la Terre que depuis 30 jours. Pourtant, David Bowman avait souvent du mal à croire qu'il ait jamais pu connaître autre chose que l'existence du petit monde qu'était Explorateur 1. Toutes ses années de formation et ses premières missions sur la Lune et sur Mars lui semblaient appartenir à la vie d'un autre homme. Frank Poole éprouvait les mêmes sentiments et parfois, en plaisantant, il déplorait que le plus proche psychiatre fût à 100 millions de milles de là. Mais il était relativement facile d'accepter cette impression d'isolement et d'étrangeté qui ne révélait absolument rien d'anormal. Jamais, depuis que les hommes s'étaient aventurés dans l'espace, un demi-siècle auparavant, une telle mission avait été mise sur pied. Elle était née 5 ans plus tôt sous le nom de Projet Jupiter. Elle devait constituer la première exploration humaine vers la plus grosse planète du système solaire. L'astronef était pratiquement prêt pour ce voyage de 2 années lorsque, brusquement, le but de la mission avait été changé. Explorateur 1 irait bien jusqu'à Jupiter, mais il ne s'y arrêterait pas. Il ne réduirait même pas sa vitesse en croisant les satellites du système jovien. Bien au contraire, il utiliserait le champ gravifique de la planète géante comme une sorte de tremplin afin de s'éloigner encore du Soleil. Telle une comète, Explorateur 1 filerait vers les confins du système solaire, en direction de son but final, Saturne et ses anneaux prodigieux, sans espoir de retour. Pour Explorateur 1, en effet, il ne s'agirait que d'un voyage aller, mais son équipage n'avait nullement l'intention de se sacrifier. Si tout se passait bien, d'ici 7 ans, il devrait être de retour sur Terre. Sur ces 7 années, 5 passeraient en un éclair dans le sommeil sans rêve de l'hibernation, en attendant les secours du second explorateur qui, à l'heure actuelle, n'était pas encore construit. Le mot « secours » était soigneusement évité dans les rapports et documents administratifs, car il impliquait quelques failles dans le plan prévu. Le terme accrédité était « récupération ». Si le moindre incident survenait, il n'y aurait certainement aucun espoir de secours à 1 milliard de milles de la Terre. C'était là un risque calculé, comme pour tous les voyages dans l'inconnu. Mais un demi-siècle de recherche avait prouvé que l'hibernation artificielle était un moyen sûr qui ouvrait aux voyages spatiaux des possibilités nouvelles. C'était pourtant la première mission où elle serait pleinement exploitée. Les 3 membres de l'équipe d'observation, qui n'auraient aucun rôle à tenir jusqu'à ce que le vaisseau soit placé en orbite autour de Saturne, dormiraient durant tout le voyage. Des tonnes de vivres seraient ainsi économisées et, ce qui était presque aussi important, les hommes seraient frais et dispos à leur réveil. Au terme du voyage, Explorateur 1 deviendrait une nouvelle lune de Saturne. Il suivrait une ellipse de 2 millions de milles, qui lui ferait frôler la planète géante et couper les orbites de ses principaux satellites. Les hommes disposeraient de 100 jours pour étudier un monde qui avait 80 fois la surface de la Terre et autour duquel gravitaient 15 lunes, dont la plus vaste était aussi grosse que la planète Mercure. Saturne devait receler assez de prodiges pour occuper une expédition durant des siècles, mais cette première mission se bornerait à un simple travail de reconnaissance. Tous les relevés seraient transmis à la Terre, et ainsi, même au cas où les explorateurs ne reviendraient jamais, leurs travaux ne seraient pas perdus. Au bout de 100 jours, Explorateur 1 se rapprocherait de la planète. Tout l'équipage se remettrait en hibernation, et seuls les systèmes essentiels du vaisseau continueraient de fonctionner sous la direction de l'infatigable cerveau électronique. Explorateur 1 continuerait de tourner autour de Saturne selon une orbite si précise que les hommes pourraient le retrouver après 1000 années. Mais c'était au bout de 5 ans seulement, selon les plans prévus, qu'Explorateur 2 devrait arriver. 6, 7 ou 8 années de sommeil, les passagers ne verraient pas la différence. Pour eux, le temps serait arrêté, ainsi qu'il s'était déjà arrêté pour Whitehead, Kaminsky et Hunter. Parfois, Bowman, en tant que commandant de bord, enviait ses 3 collègues plongés dans l'inconscience glacée de l'hibernacle. Ils étaient libres de tout souci, de toute responsabilité. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint Saturne, le monde extérieur, pour eux, n'existerait plus. Mais ce monde veillait sur eux par l'intermédiaire de l'appareil biosensoriel. Au milieu des multiples instruments du tableau de contrôle central, 5 panneaux étaient marqués Hunter, Whitehead, Kaminsky, Poole et Bowman. Ces 2 derniers étaient obscurs. Ils n'entreraient pas en fonction avant 1 an. Mais des constellations de lueurs vertes apparaissaient sur les 3 autres, annonçant que tout allait bien, et sur chaque panneau se trouvait un petit écran sur lequel des lignes sinuaient au rythme du pouls, de la respiration et de l'activité cérébrale. À certains moments, bien qu'il sût que cela était inutile puisque l'alerte était automatiquement déclenchée en cas de défaillance, Bowman passait en observation audio et écoutait, à demi hypnotisé, les battements de cœur infiniment lents de ses collègues endormis, les yeux fixés sur les courbes des écrans. L'activité EEG était encore plus fascinante. Elle représentait en quelque sorte la signature électronique de 3 personnalités qui avaient vécu et revivraient un jour prochain. Les pics et les vallées qui marquaient la carte du cerveau en état d'activité étaient ici presque absents. Si quelques traces de conscience subsistaient au sein des cerveaux endormis, elles se trouvaient au-delà de la portée des appareils, au-delà de la mémoire. Bowman avait conscience de ce dernier fait de par son expérience personnelle. Avant qu'il eût été choisi pour cette mission, on avait enregistré ses réactions à l'hibernation. Depuis, il n'avait jamais su vraiment s'il avait perdu 1 semaine de son existence ou s'il avait retardé sa mort d'autant. Lorsque l'on avait fixé les électrodes sur son front, lorsque le générateur de sommeil était entré en action, il avait entrevu des formes kaléidoscopiques et des étoiles errantes. Puis tout avait disparu et les ténèbres l'avaient englouti. Il n'avait pas senti les piqûres, encore moins la première morsure du froid lorsque la température de son corps s'était abaissée jusqu'à 1 degré proche de la glaciation. Il s'éveilla et eut l'impression d'avoir à peine fermé les yeux. Mais il savait que ce n'était qu'une impression. Pourtant, malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de songer que des années s'étaient écoulées. La mission avait-elle réussi? Avait-il atteint Saturne, effectué leurs observations et plongé dans l'hibernation? Explorateur 2 était-il prêt à les ramener vers la Terre? Il dérivait dans une brume de rêves, incapable de distinguer la réalité de ses faux souvenirs. Il ouvrit les yeux, mais il y avait bien peu de choses à voir en dehors d'un amalgame de lueurs floues qui l'éblouirent durant quelques minutes. Puis il prit conscience qu'il fixait les lampes indicatrices du tableau de contrôle général de l'astronef. Mais il ne parvenait pas à les voir nettement et il abandonna très vite. Un air tiède soufflait sur lui, revigorant ses membres paralysés par le froid. Il entendait une musique à la fois douce et stimulante qui devenait de plus en plus forte. Puis une voix calme et amicale lui parla, et il sut qu'elle provenait de l'ordinateur. « Tu es en état d'activité, Dave. Ne te lève pas et ne fais aucun mouvement violent. N'essaie pas de parler. » « Ne pas se lever, se dit Bowman. » Très drôle. Il ne pensait pas qu'il fût capable d'agiter un doigt. Pourtant, à sa grande surprise, il découvrit qu'il le pouvait. Et il en fut très satisfait tout en continuant de se sentir détaché, abasourdi. Il avait vaguement conscience que le vaisseau de récupération avait dû arriver, ce qui expliquait que le processus de résurrection fût entré en action. Très bientôt, il verrait à nouveau d'autres êtres humains. Tout cela était très bien, mais ne l'excitait guère. Il avait faim. L'ordinateur, évidemment, avait prévu cela. « Il y a un bouton à ta droite, Dave. Si tu as faim, appuie dessus. » Il obligea ses doigts à se tendre et découvrit bientôt le bouton. Il avait tout oublié. Pourtant, il aurait dû savoir que le bouton se trouvait là. Combien d'autres choses avait-il oublié? L'hibernation effaçait-elle les souvenirs? Il appuya. Il attendit. Après plusieurs minutes, un bras de métal se déploya et un biberon de plastique descendit jusqu'à ses lèvres. Il téta avec avidité et un liquide tiède et sucré coula dans sa gorge, lui apportant à chaque goulée une énergie nouvelle. Puis il disparut. Bowman demeura immobile. Mais il pouvait bouger bras et jambes à présent. L'idée de déplacement n'était plus un rêve impossible. Bien qu'il sentît affluer rapidement ses forces, il eût été heureux de rester ainsi pour l'éternité s'il n'avait perçu aucun stimulus de l'extérieur. Mais une voix nouvelle lui parlait, une voix totalement humaine à présent, une voix qui n'était pas faite d'impulsions électriques assemblées par une mémoire supérieure. Elle était presque familière, bien qu'il lui fût impossible de la reconnaître.
« Hello Dave, tout va bien, tu peux parler maintenant. Sais-tu où nous sommes ?»
Pour la première fois, il se mit à réfléchir à cela. Si vraiment il tournait autour de Saturne, que s'était-il passé sur Terre durant ces mois? Il se demanda à nouveau s'il n'avait pas été frappé d'amnésie. Paradoxalement, cette pensée le rassurait. S'il parvenait à se souvenir du mot « amnésie », son cerveau devait être encore à peu près intact. Mais il ignorait toujours où il se trouvait. Celui qui était à l'autre extrémité du circuit devait pourtant comprendre sa situation.
« Ne t'inquiète pas, Dave. C'est Frank Paul ici. Je surveille ton cœur et ta respiration. Tout est parfaitement normal. Relaxe-toi, c'est tout. Maintenant, nous allons ouvrir la porte et t'éjecter. »
Une douce clarté illumina la chambre. Il entrevit des silhouettes mouvantes et, en un instant, ses souvenirs revinrent. Et il sut exactement où il se trouvait. Bien qu'il eût franchi les plus lointaines limites du sommeil, les approches de la mort, il n'avait été absent qu'une semaine. En quittant l'hibernation, il ne pouvait voir l'espace saturnien qui était encore à plus d'un an dans l'avenir et à 1 milliard de miles dans l'espace. Il était toujours dans le complexe d'entraînement au centre spatial d'Houston, sous le chaud soleil du Texas.